Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et avec moi, aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors Pauline, tu as choisi aujourd'hui de nous parler du féminisme. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais peut-être que tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors, je te donne la parole.
Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées qui partagent un but commun, promouvoir et avoir l'égalité politique, sociale, économique, culturelle et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme, ça a pour objectif différents domaines, l'inégalité homme-femme, dont les femmes sont les principales victimes, et promouvoir les droits de la femme dans la société civile et dans la vie privée.
Merci Pauline pour cette présentation du féminisme. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit, on a la chance d'avoir ici avec nous en studio une invitée qui s'appelle Maureen. Bonjour Maureen.
Bonjour.
Maureen, tu es étudiante et tu as créé une application contre le harcèlement de rue, mais Pauline a prévu une interview, donc je vous laisse la parole.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir pourquoi vous aviez eu cette idée.
Alors, on est un groupe de 4 étudiantes. Depuis octobre, on participe au concours Créa Campus, qui est un concours de création d'entreprise organisé par Pépite Centre-Val de Loire. Et il a fallu se poser la question, qu'allons-nous créer ? Et on a tout de suite voulu créer quelque chose pour les femmes et par les femmes. Et on est toutes victimes de près ou de loin par le harcèlement de rue. Donc on a voulu agir contre ça en créant une application qui est en cours de création, qui s'appelle Not Alone. Et ce serait une application de copiétonnage pour les femmes.
Mais l'appli, elle sera ouverte à tous ?
Oui, elle sera ouverte à tout le monde, enfin toutes les femmes, dans un premier temps. Pour le moment, ce sera, oui, que pour les femmes, à voir par la suite comment ça évolue, mais voilà.
Et c'est une association ou un mouvement individuel ?
Alors, ce n'est pas une association, ça va être une entreprise, en fait. On va créer une entreprise. Et parce qu'une application, pour qu'elle vive, il faut la financer. Donc, il faut qu'on crée une entreprise.
L'appli, elle sera réservée exclusivement au harcèlement de rue ou à d'autres situations ?
Bah, en fait, l'application, elle vise à lutter contre le harcèlement de rue. Après, il y a d'autres choses dont les femmes peuvent avoir peur. Le but vraiment de l'application, c'est de se raccompagner. Donc, le copiétonnage, c'est le fait de partager un bout de trajet à deux ou à plusieurs. C'est vraiment de se raccompagner dans la rue, de faire un bout de trajet à pied ou dans les transports en commun et de se sentir plus en sécurité, reprendre confiance et pouvoir aller dans la rue sans vraiment avoir peur, en fait.
Et pour vous, c'est quoi la définition du harcèlement de rue ?
Alors, le harcèlement de rue, c'est très large. Ça va du regard malsain au cas du viol, en fait. Parfois, il y a des hommes, c'est vrai, ou même des femmes qui subissent qui font le harcèlement de rue, simplement en regardant quelqu'un d'une manière spéciale. On peut se sentir mal, des gestes, c'est vraiment très large, le harcèlement de rue.
Qu'est-ce qui favorise ce harcèlement-là en particulier ? C'est l'âge, enfin, c'est...
Je réfléchis, ce qui favorise... Bah, de plus en plus, on entend parler. Le confinement n'a pas fait diminuer le harcèlement de rue. Il y en avait toujours. Après, ça a toujours existé, mais malheureusement, c'est de plus en plus. L'âge, j'ai envie de dire oui et non. C'est vrai que quand on est adolescente, on en entend plus parler, mais je sais qu'il y a déjà des femmes de plus de 40 ans qui se font encore harceler.
Mais la situation du Covid-19, elle n'a pas dû arranger les choses, non ?
Non, pas du tout, parce que les gens sortaient quand même et subissaient quand même du harcèlement de rue, parfois hors couvre-feu.
Et c'est qui les plus touchés ? Enfin, c'est les grandes villes ou en campagne ?
Bah, bien sûr, c'est les grandes villes parce qu'il y a plus de monde, mais en campagne, il y a quand même du harcèlement de rue qui se passe.
Et au niveau des statistiques, ça se passe comment ? C'est élevé à quel point ?
Alors, il y a, je sais que Tours avait fait une étude et il y avait 97% de femmes qui, je sais plus si c'était homme, femme ou que femme, j'ai un doute, mais qui avaient déjà subi du harcèlement de rue. Donc, c'est énorme quand même.
Et vous ciblez quelle tranche d'âge ?
La tranche d'âge, c'est vrai que c'est 18-25 le plus, mais l'application elle est ouverte à tout le monde. Toutes les femmes, n'importe l'âge ne compte pas en fait.
Mais en quoi elle sera différente des autres applications, la vôtre ?
Alors en fait, l'application Not Alone, c'est une application donc, de copier-tonnage 100% féminine et vérifiée à l'aide d'une carte d'identité, d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail pour certifier que c'est une femme. Et elle est différente car aucune application est réservée qu'aux femmes jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est vraiment pour les femmes, par les femmes. On prône ça. L'entrepreneuriat par les femmes, c'est très important pour nous. Voilà. Et voilà, j'ai répondu, je crois. Si je peux juste rajouter, par rapport à la tranche d'âge, on a créé un groupe Facebook sur Tours de copier-tonnage pour déjà commencer en fait à copier-tonner ensemble avec les femmes de Tours. Il y en a eu d'effectués et par exemple, la tranche d'âge, il y a eu des étudiantes, donc 18-20 ans. Il y a également eu des femmes de plus de 30 ans en fait qui ont fait des copier-tonnages ensemble.
Ça peut cibler les lycéens aussi.
Oui, ça peut cibler les lycéens. Après, l'application, elle n'est pas encore créée. Tout ce qui est par rapport aux mineurs, il y a énormément de réglementations. Pour le moment, je peux pas vous dire direct, elle sera accessible aux mineurs. Nous, on le veut, hein, évidemment, qu'elle soit accessible à tout le monde. Mais c'est plein de réglementations qui sont à prendre en compte. Et des accords parentaux, des trucs comme ça.
Ouais. Et l'appli, elle sera téléchargeable ou ce sera un site internet ?
Non, elle sera téléchargeable sur Play Store, l'App Store, enfin tout comme là où on télécharge nos applications. Elle sera gratuite au téléchargement et à l'inscription également.
Et du coup, elle n'existe pas encore ?
Non, mais bientôt, ça arrive. Il y a une première version qui va sortir, on espère, en septembre.
Et en cas de problème, il y aura un numéro d'urgence ?
Bien sûr, on va nous-mêmes... en fait, on est quatre dessus et on en a conscience, ça va être beaucoup de boulot. On le sait, on va nous-mêmes, au début, vérifier les cartes d'identité. Si on a un doute, on appellera les personnes, on enverra des mails. On est accompagné par notre marraine de projet, on est accompagné par Pépite, on n'est pas toute seule là-dessus, donc ça va le faire. Et on aura aussi nos numéros qui seront disponibles s'il y a un problème.
Et ce genre d'appli, ça existe autre part qu'en France ? Pour vous avoir donné l'idée ou...
En fait, ce qui nous a donné l'idée, c'est que en Irlande, il n'y a pas d'application, mais j'ai déjà entendu parler qu'en Irlande, souvent, quand on arrive en tant qu'étudiante, les profs et les gens en fait, disent « voilà, faites attention quand vous rentrez des bars, essayez de ne pas rentrer toute seule ». En fait, le copier-tonnage en Irlande, c'est hyper, hyper habituel. En France, plein de fois, j'ai dit copier-tonnage, les gens me regardaient un peu en mode « qu'est-ce que c'est le copier-tonnage ?» Alors qu'on en fait régulièrement. Quand on est à deux dans la rue, on copier-tonne. Voilà.
C'est pas quelque chose de très connu encore.
Voilà, c'est pas habituel. Et nous, on veut vraiment ancrer ça dans les habitudes des... Après, il y a des gens qui aiment bien marcher tout seul. Bah, c'est cool aussi. Mais voilà, quand on se sent pas en sécurité, être à deux... Être un groupe, ça dissuade le potentiel agresseur et on se sent vraiment plus à l'aise en fait.
Et vous connaissez le montant encouru pour le harcèlement de rue ?
Comment ?
Vous connaissez l'amende encourue pour le harcèlement de rue ?
Je sais que c'est amendable, par contre je pourrais pas dire le prix, je ne me souviens plus. J'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est puni le harcèlement et il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas, que vraiment ils encourent quand même des peines lourdes, et c'est important de le savoir.
Bah, c'est entre 90 et 750 euros d'amende.
Ouais.
Et 3000 euros si c'est aggravé ou si c'est des récidives.
D'accord. Je crois qu'il y a aussi peut-être des peines aussi un peu de prison.
Je pense.
Ouais, je crois. Voilà, c'est important de le savoir et de le dire. Il faut aller porter plainte quand on se fait harceler, essayer d'avoir des témoins autour de nous aussi, c'est important.
Après, c'est pas quelque chose de facile.
Non, c'est très dur. C'est très dur d'en parler. Souvent, la victime, quand elle se fait harceler, elle se sent, elle, coupable, alors que pas du tout. Mais c'est très, très difficile d'en parler, de faire le premier pas, en fait. Mais il faut vraiment dénoncer ce genre d'agression.
Je pense que c'est un mélange de culpabilité et de honte, par peur de pas être écoutée ou qu'on nous juge.
Exactement. Parfois, c'est vrai que les victimes n'étaient pas écoutées, mais de plus en plus, ça a quand même le harcèlement de rue, ça prend malheureusement de la place. On entend parler et c'est important. Je sais qu'il y a plein d'associations, en tout cas sur Tours, qui sont, je pense à Stop Harcèlement de Rue, Nous Toutes, et il y en a encore plein d'autres, et même dans la France, qui sensibilisent sur ce thème-là. C'est important.
Puis il y a des gens qui arrivent quand même à retrouver des personnes sur les réseaux sociaux juste en les croisant dans la rue. Donc parfois ça peut aller jusqu'au harcèlement sur les réseaux.
Ouais,
ou...
le cyberharcèlement. Non mais c'est très grave, hein. C'est pour ça il faut avoir le courage d'aller porter plainte dès la première. Même si c'est qu'un regard, il faut quand même en parler.
Mais du coup, vous avez des partenaires ou...
Des partenaires par rapport à l'application, déjà Pépite qui nous accompagne, qui est un partenaire, on va dire. L'application, elle va être créée par la Mobilerie. La Mobilerie qui est une entreprise de développement web, donc qui fait des applications, des sites internet. On a des... je réfléchis. On est soutenu par Philippe Chalumeau, le député d'Indre-et-Loire. Voilà.
Et donc ça compte aussi pour les politiciens.
Oui, Monsieur Chalumeau, c'est vrai qu'il est très engagé dans cette cause-là. Il a tout de suite adhéré à notre projet et il nous soutient vraiment. Il nous donne plein de conseils. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça aussi qui soutient le projet.
Et vous avez des aides financières?
Alors les aides financières, on est en train, parce qu'on veut créer l'entreprise et une application, ça coûte très cher à financer. On est 4 étudiantes, donc on n'a pas beaucoup de financement, en fait. On pense à des subventions, bien sûr. Le concours Crea Campus, évidemment. D'ailleurs, les résultats, c'est le 14 juin à 18h sur le Facebook de Pépites Centre-Val-de-Loire. On espère avoir un prix, bien sûr. Il y a plusieurs prix différents. On participe à d'autres concours pour gagner de l'argent. On va aussi nous-mêmes en mettre de notre poche. Et voilà, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on serait dégoûté en fait que juste le financement nous empêche de créer cette application et d'aider plein de femmes. Donc on va tout donner pour avoir des subventions.
Mais ce serait une appli qui joue que sur Tours ou autre part aussi?
Alors au début, ça va être plus Tours parce que voilà, quand il y aura une première version d'application, on va en parler à notre communauté, aux étudiantes. Donc ça va plus être sur Tours, mais le but, c'est que ce soit dans toute la France, bien sûr. Et pourquoi pas en Europe un jour.
Et vous avez besoin de bénévoles?
On a déjà une bénévole qui est sur Aix-en-Provence. On l'a appelée l'ambassadrice Not Alone. Donc, sur Aix-en-Provence, en fait, elle se charge de faire un peu toute la pub de Not Alone. Elle le fait très gentiment sur Aix-en-Provence, du coup. Après, pour le moment, non. On s'en sort toutes les quatre. Peut-être par la suite, ce serait bien.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Je te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Est-ce que, Pauline, est-ce que le public peut poser des questions?
Oui.
Alors moi, j'avais des questions aussi pour Maureen, donc je m'interrogeais, mais peut-être Pauline peut réagir, et Bruno aussi d'ailleurs, qui est là. Je m'interrogeais aussi sur le rôle des vieilles, avec plein de guillemets, parce que bon, c'est pour une asso qui cible les 18-25, mais au demeurant, je me dis que si une femme plus âgée, ça fait bizarre de dire ça, mais le télécharge, je me dis que ça peut être intéressant aussi de dire qu'il y a des femmes plus âgées, peut-être qu'elles ne vont pas aller s'éclater en boîte, mais en tout cas, si elles sont là, peut-être qu'elles auront envie
bien sûr
d'être là pour accompagner des femmes plus jeunes.
Bah justement, il y a deux sortes de femmes. Il y a les femmes qui veulent être aidées, et les femmes qui veulent aider. Et l'application, c'est pour qu'elles se rencontrent, en fait. C'est vraiment une application où on va mettre en lien ces femmes-là pour qu'elles se sentent plus en sécurité. Et les femmes qui veulent aider d'autres femmes peuvent avec Not Alone.
Alors, j'avais une autre question aussi sur quelle figure elle va avoir, cette application. Est-ce que c'est une carte, en fait, un mapping où on clique, par exemple, bah, moi je suis ici, et du coup, around me, qui est là, à quoi ça va ressembler?
Alors, il y aura une map de géolocalisation pour... en fait, est-ce que vous voyez l'application BlaBlaCar? Eh bien, ce serait pratiquement la même chose, mais pour marcher, en fait. On va poster une heure et un endroit de départ, là où on va, et les femmes qui pourront répondre... Et en cherchant en fait leur destination, vont trouver d'autres femmes qui font le même trajet et qui l'ont posté. Et il y aura aussi donc une map. Si par exemple on est, on est en soirée, on n'a pas eu le temps de poster quelque chose, on ne veut pas rentrer toute seule, on ne se sent pas à l'aise, il y aura une map de géolocalisation. Bien sûr, on la met pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas être géolocalisées. Avec autour de nous, dans un rayon je sais pas encore, mais dans un rayon proche, les femmes qui sont autour de nous et qui sont disponibles pour nous raccompagner et qu'on soit pas seul.
Voilà, et alors peut-être aussi préciser un peu plus ce qu'est Pépite, parce qu'il me semble que c'est l'entrepreneuriat étudiant, donc ça,
oui.
ça s'adresse uniquement aux étudiants. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus ?
Alors Pépite, c'est un organisme pour les étudiants entrepreneurs. Ils nous accompagnent. Là, je sais qu'on est sur la formation Pépite Starter. Donc Pépite Starter, c'est une formation qui booste les projets. On a beaucoup de webinaires, d'interventions avec des professionnels de l'entrepreneuriat. Et Pépite nous accompagne en fait dans nos projets. On a souvent des points avec eux toutes les deux semaines pour parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire. Et ils sont très présents et heureusement qu'on les a, sinon c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas en fait.
Est-ce que vous êtes la seule équipe féminine ? Dans Pépite
Je sais pas. Dans Pépite Starter, on est la seule équipe féminine. Dans Créa Campus, non. Mais je connais pas tout le monde encore à Pépite. On est pas mal d'étudiants. Mais en tout cas, dans Pépite Starter, on est la seule équipe féminine, ça c'est sûr.
Cette idée d'être entrepreneuse, c'est comment dire, c'est répandu ou c'est encore un peu rare ?
Ça commence à se répandre. C'est vrai que, en fait, je sais que j'ai beaucoup parlé avec Justine Dubourg, qui est présidente de Touraine Women et qui prône l'entrepreneuriat par les femmes. Et il y avait souvent à Tours des start-up week-ends. Voilà, c'est ça le mot. Et on a remarqué qu'il y avait énormément d'hommes. Qui venaient et qui étaient porteurs de projets. Et les femmes, pas souvent. Et Touraine Women, c'est vraiment l'entrepreneuriat par les femmes. Et ils ont organisé des start-up week-ends où la règle, c'était mixte, mais c'était que la porteuse de projet devait être une femme. Et de plus en plus de femmes, oui, osent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il en faudrait encore plus.
Peut-être que Pauline a une idée d'application, de projet.
Non, pas trop. Mais je sais que je peux faire peur avec ce genre d'application, de me poser la question si ça vous concernait. C'est la peur qu'il y ait des groupes qui se forment et que ce soit jugé ou même de recevoir des messages assez violents.
Contre l'application ?
Oui.
Après, de toute façon, quand on fait quelque chose, il y a toujours des personnes pour être pas d'accord ou d'accord. Après, nous, on sait pourquoi on fait ça. On a eu énormément de bons retours et on sait que ça peut vraiment aider les femmes, même moi. Enfin, clairement, cette application, je l'utiliserai. Donc, il y a toujours des personnes pour ne pas être contentes et dénigrer un projet. Mais moi, je sais que... On a confiance en notre application.
Je pense que c'est une application qui peut énormément servir à notre génération, dans le sens où on sort beaucoup plus, et puis avec la vague du Covid, on a été pas mal enfermés. Et maintenant, on veut prendre
sortir.
De l'air, on veut pouvoir s'amuser.
Ouais.
Je pense que ça va être quelque chose qui va énormément aider au niveau de la sécurité. Les personnes vont se sentir plus en sécurité, trouver ça plus sécurisant. Ou même auront peut-être moins peur de sortir.
On espère, c'est le but. Hein. C'est vraiment de rassurer les femmes dans la rue et en fait de d'empêcher. On a fait un sondage en début d'année où on a posé la question vous êtes-vous déjà empêchée de sortir par peur d'être seule et donc rester chez vous? Et on a eu 60% de oui. Et c'est énorme. Et ça, limite, ça fait peur en fait. Donc ça, il faut pas que ça se produise. Il faut sortir et si on peut accompagner pour se sentir en sécurité, bah tant mieux, on fait ça.
Puisqu'on a un étudiant infirmier ici sur ce plateau, Bruno, peut-être aimerais-tu réagir à tout ce qui a été dit ?
Oui, je voulais savoir si tu as d'autres projets, d'autres applications.
Alors pour le moment non, on va commencer avec une, on va attendre déjà qu'elle soit créée, et puis si un jour on a d'autres idées, pourquoi pas.
Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour, euh, pour la développer, pour te créer un, enfin pour faire un peu de la publicité auprès des étudiants. T'as déjà des idées un petit peu ou pas?
Ouais, auprès des étudiantes. En fait, moi, j'étais en fac d'économie. Et l'asso des économistes de Tours pourrait être intéressé pour faire une espèce de collaboration avec nous. Donc, si en septembre, une première version d'application sort, et elle sera bien sûr accessible aux étudiantes de l'association, et on aimerait beaucoup aussi avec l'université, en fait, faire quelque chose avec l'université. Parce que, là, je pense que, bon, on va espérer que le Covid ne recommence, enfin, qu'il n'y ait pas encore tous les cours à distance et qu'on puisse sortir comme on veut dès la rentrée, mais pour les soirées étudiantes, même des fois, moi j'avais des cours qui terminaient à 20h, je rentrais toute seule, il faisait nuit, j'étais pas forcément rassurée. Donc si on peut faire quelque chose avec l'université, ça peut être vraiment chouette.
Et pour les personnes plus âgées du coup, est-ce que t'as une idée?
Alors pour les personnes plus âgées, bah, y a les groupes Facebook, ouais. Où surtout on est déjà 347 membres, peut-être un peu plus maintenant. Donc le groupe Facebook s'appelle Copiétonnage Tour Not Alone. Voilà, dès à présent en fait on peut poster un copier-tonnage et quelqu'un nous y répond, comme ça on est à deux. C'est un groupe qui est privé, c'est nous-mêmes qui vérifions les profils, donc il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. Après on a un compte Instagram aussi où on fait pas mal de lives, on aborde les sujets du harcèlement de rue, on montre comment le projet avance, donc ça c'est sympa, puis Pépite nous met en avant. On fait des radios. on a déjà aussi été sur la chaîne TV Tour. On a fait une interview. Et voilà. On fait comme on peut, mais on adore. On adore vraiment.
Et est-ce que des fois, tu n'aurais pas peur que justement ce genre d'application, comme tu as envie de créer, ça n'alimente pas plus... cette peur d'être harcelé
Non, parce que le but de l'application, c'est pas d'avoir peur, en fait. C'est d'être assuré. Donc, nous, quand on pitch notre projet, on parle pas... On parle d'insécurité, mais on parle pas de peur, justement. Mais en avant, ça va vous ça rassure d'être en groupe. Donc, non, ça... Je pense pas que ça va faire encore plus peur.
Et tu comptes mettre en place, par exemple, au sein de cette application, des liens d'associations avec qui vous serez partenaire, si jamais, justement, ouais. Il y a harcèlement et qu'il faut penser à la suite de ce qui peut se passer. Est-ce que ça serait...
Oui, carrément, ce serait une super idée. On a déjà discuté avec des associations qui aiment notre projet. Nous, on... Ces associations, heureusement qu'elles sont là. Donc oui, carrément, il faudrait avoir un petit onglet dans l'application avec des liens, différents liens, même des numéros d'urgence. Bien sûr, on a également envie de faire une fonctionnalité qui serait le bouton d'appel d'urgence. Il faudrait appuyer sur un petit bouton. Et en fait, soit on ferait un message qui est envoyé aux personnes programmées, un message qui a été programmé à l'avance, ou alors un message un peu d'urgence qui est envoyé aux personnes les plus proches de nous. Et également la police, bien sûr.
Merci, c'est un beau projet.
Merci.
Moi, je suis pas étonnée, mais l'idée de... Est-ce que cette application, ça va pas alimenter la parano ambiante Après, je me dis non. Alors déjà, je pense que non. Et puis, je me dis, après, au-delà du fait d'avoir peur de se faire agresser... ennuyé, accosté, si on n'a aucune envie dans la rue. Je me dis, mais ça peut aussi être... Or, les personnes qui aiment bien rentrer tout seul, c'est peut-être juste sympa aussi. De se dire, j'ai 20 bonnes minutes de trajet à pied. J'ai pas spécialement peur de me faire agresser, mais au demeurant, c'est cool, quoi, si je peux discuter avec quelqu'un en route. Donc, je me dis, il y a peut-être un côté sympa aussi. En plus, post-confinement, c'est ce que Pauline disait tout à l'heure, les jeunes, surtout, ont été beaucoup enfermés, beaucoup tout seuls. Et donc, de dire, c'est peut-être le moyen aussi, une façon assez safe, de dire, je vais pouvoir me faire des copines, en fait, et de dire, il n'y a pas d'enjeu bizarre ou glauque ou je sais pas quoi, parce que l'idée, c'est... Dans une idée justement d'entraide. Donc je sais pas ce que vous voudriez en dire toutes les deux.
Si, carrément. Quand par exemple on déménage dans une ville et qu'on est toute seule, l'application elle sert aussi à ça, à faire des rencontres, à se créer un petit réseau, des amis, à sortir pas seule. Et c'est aussi pour ça, il n'y a pas que l'application, elle lutte contre le harcèlement de rue, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont possibles. Donc faire des rencontres, voilà.
Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y'a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison. Même quand t'as raison, s'il y a une chose que tu dois pas remettre en question. T'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir. Tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier. Bien sûr, la vie est injuste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes, y'a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y'a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé. Laisse glisser. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais aux plus faibles. Garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire. Y'a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tâche ton sac à dos en l'air. T'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. Trois quarts des cours servent à rien. Mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien. Tu fais le malin mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de
victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important. Fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans. Genre, putain, je vais crever, mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein. Donc petit terroriste, va t'éclater. Sors en soirée, même si j'avoue, tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon, t'allais pas baiser ce soir si je dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, c'est que tu t'attaches à pas grand chose. Arrête de flipper, si tu veux, va danser. La seule règle sur la piste, c'est fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace, c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille avec une bite dessinée sur la joue. C'est repas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il n'y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y'a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de version. La meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir, parce qu'il n'y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel, leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y a rien à faire à part être présent, panser les plaies, changer les pansements. Le seul remède c'est le temps.
Spoiler, hein, aux auditeurs, Bruno a une chaîne YouTube, il y a une vidéo harcèlement en stage. Alors c'est quoi ce harcèlement-là ?
Bien, c'est ce qu'on va appeler aussi, oui, c'est le harcèlement que peuvent vivre certains étudiants. Là, pour le coup, j'ai évoqué les étudiants infirmiers. Le harcèlement aussi vécu par une étudiante. Voilà, c'est des choses qui arrivent non seulement pour les étudiants infirmiers, je pense que tous les étudiants peuvent des fois se sentir un peu victimes de harcèlement parce que quand on est étudiant, des fois on n'ose pas trop dire ce qu'on pense parce qu'on a toujours peur d'être jugé, de pour les étudiants infirmiers par exemple, de ne pas valider son stage. De se fermer parfois aussi des portes et de se retrouver contre une équipe ado et on n'ose pas tellement s'exprimer face à ça. Du coup, cette vidéo, ces vidéos d'ailleurs, évoquent le harcèlement qui peuvent être vécu par les étudiants infirmiers. Qui sont peut-être un peu tabous. Enfin, je parle des étudiants infirmiers, mais ça peut être vraiment tous les étudiants. Il y a aussi des étudiants en médecine, des étudiants qui... Je pense à toi. Enfin, je ne sais pas si tu as fait des stages ou si tu as déjà entendu...
J'ai jamais fait de stage, mais oui, j'ai déjà entendu parler tout simplement par ma coiffeuse qui, pendant ses stages de coiffure, s'est fait harceler pour qu'elle démissionne en fait, et rate son année, quoi.
Et puis ça peut aussi découler sur le harcèlement au travail, en fait. C'est des sujets qui sont difficiles à aborder, mais, mais qui se développe de plus en plus et on ose de plus en plus en parler. Et c'est aussi puni. C'est des choses importantes.
Et donc là, dans cette vidéo, c'est une jeune femme ?
Oui, c'est une jeune femme, c'est une étudiante en soins infirmiers qui était en renfort pendant la crise sanitaire et qui a subi des remarques désagréables, des regards insistants, un peu comme ce qui peut se passer dans l'harcèlement de rue. Et qui ne savait pas trop comment aborder le sujet, puisqu'elle était en renfort avec une équipe qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas vraiment à qui est-ce qu'elle pouvait se confier ou pas. Et puis c'est ce que Pauline a dit, des fois quand on est victime de harcèlement, on a peur de ne pas être crédible. Et la position de victime, elle n'est pas facile non plus, je pense... à vivre. Et donc cette étudiante a eu le courage de s'exprimer, d'en parler aussi à l'encadrement, aux supérieurs, qui ont fait les démarches nécessaires pour que ça n'arrive plus.
C'est-à-dire
que cette personne-là, elle ne travaillait plus avec cette étudiante. Je ne connais pas la suite des décisions prises par l'encadrement, mais parce que la vidéo a été faite vraiment à la suite de ce qui s'est passé. Et enfin, j'espère en tout cas que cette personne-là, elle a été un petit peu plus que prévenue, que voilà, que ce qu'elle faisait, c'était illégal, c'était puni. Et qu'elle se rende compte aussi de ce qu'elle fait. C'est important.
Pardon, mais la prévenir ou l'empêcher de travailler avec la personne avec qui ça s'est passé, ça n'empêche pas que ça peut réarriver. Juste prévenir quelqu'un, ça va pas... Je pense pas que ça va changer les choses.
Bien sûr. Après, oui. Je n'interviens pas dans les décisions qui sont prises, mais il y a encore un écart entre la théorie et la pratique, la théorie qui doit se passer. Enfin, tout ce qu'on est censé réaliser, tout ce qui est vraiment fait sur le terrain, il y a un écart encore. Je ne pourrais pas te dire ce qui s'est passé pour cette personne, puisque dans tous les cas, nous sommes soumis au secret. Mais il y a des choses qui ont été faites, en tout cas.
Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement, Pauline, quand tu dis ça suffit pas de dénoncer des faits anormaux ?
Bah, je pense que quand on dénonce un fait, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de fait. Et retirer la personne de l'équipe avec laquelle elle travaille, ça va pas empêcher la personne qui a été retirée de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et juste prévenir, je pense pas que ça va arrêter une personne pour... de faire ce qu'elle faisait déjà.
Alors qu'est-ce que tu penses ? Alors qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre ?
Je sais pas trop, mais ça pourrait être déjà plus pointu sur le fait qu'il y a un respect et une distance à avoir et que les personnes ne sont pas des objets, on peut pas jouer avec comme on veut. Qu'il y a la situation du travail et que c'est des collègues ou même des personnes qui interviennent parce qu'il y en a besoin. Et que c'est pas parce que c'est des personnes nouvelles qui vont pas durer longtemps que bah on peut faire ce qu'on fait pas avec les collègues qu'on a la plupart du temps. Je pense que c'est le respect aussi à avoir.
D'ailleurs, j'ai une question pour nos deux étudiants qui y sont là, hein, pour réagir à ce que dit Pauline. Est-ce que cette idée de posture professionnelle, c'est quelque chose qu'on vous enseigne dans le cadre de vos études, l'un et l'autre ?
Eh bien, je pense que ça peut être enseigné, mais ça s'acquiert aussi au fil des expériences, surtout. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Je pense qu'avec les expériences, on se construit professionnellement, et c'est surtout grâce à ça qu'on va avoir une posture professionnelle et adaptée
Mais c'est enseigné, c'est-à-dire, par exemple, on vous dit quoi dans le cadre d'une formation d'infirmier ?
Eh bien, dans le cadre d'une formation infirmier, on nous dit plein de choses. On nous dit que avant tout, on soigne, mais on est aussi des êtres humains qui peuvent avoir aussi des défauts, qui peuvent aussi commettre parfois des erreurs, mais c'est surtout que cette posture professionnelle elle s'acquiert au fil du temps avec l'expérience et avec les différents stages. Est-ce que
tu vois qu'il y a un appel dans le public?
Un appel à l'aide.
Après,
on n'entend pas la personne dans le public. Donc il y a Émilie qui veut compléter.
Donc, je suis infirmière, donc effectivement, après on essaye de toujours rester dans la bienveillance, puisque ça fait aussi partie de nos fonctions, la formation, ça fait aussi partie de notre fonction, notre rôle infirmier, hein, transmettre aussi notre savoir, nos connaissances. On reste avec de l'humain, donc effectivement, comme dit Bruno, c'est des métiers qui s'apprennent au fur et à mesure, au fil du temps, en fait, hein, en fonction des situations rencontrées. Donc je pense qu'il faut savoir aussi être indulgent et puis accompagner les futurs collègues, pour le coup, en ce qui concerne les soins infirmiers, du mieux possible. Et je pense que... si tout ça est bien respecté, je pense que les stages sont plutôt bien vécus, mais c'est vrai que ça reste quand même un milieu assez difficile pour les étudiants. Après, moi, je l'ai connu il y a presque 18 ans en arrière, donc ça remonte. Je ne sais pas si ça a évolué dans la profession, mais voilà, c'est important de faire attention à nos pairs. Voilà.
Merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Maureen ?
Alors moi, j'ai jamais fait de stage, du coup, je n'ai jamais vécu ça. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut vraiment qu'il y ait de la bienveillance dans un stage et pas de... Moi, je suis plus haut que toi hiérarchiquement, donc je peux faire ce que je veux. Il faut garder le côté humain et se dire que cette personne qu'on forme, elle va devenir comme nous, en fait. Il faut la former comme nous, on aurait été aimé être formé. Si j'ai répondu à la question.
Bah, faut demander à Pauline.
si je suis d'accord sur le fait que parce qu'on est plus haut gradé, qu'on a des droits poussés, on est tous égaux, je pense, et que faut faire attention à chacun et voilà.
On a bien compris que passé 25 ans, on est vieux, mais donc pour les gens plus jeunes de votre génération, est-ce que vous pensez que vous... Là, il y a une énergie, est-ce que vous pensez que vous alliez peut-être changer certains fonctionnements, que ce soit dans les institutions, dans le travail, peut-être dans le rapport entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une énergie, là?
Bah, on espère, je pense, changer les choses. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc... à chacun de voir s'il peut faire quelque chose. C'est pas en un claquement de doigts que les choses elles vont changer, mais si on peut participer, pourquoi pas.
Moi, je sens que les choses évoluent de plus en plus. On en parle. Avant, c'est des phénomènes, le harcèlement au travail, le harcèlement dans la rue, tout type d'harcèlement pendant des stages. C'est pas des choses dont on entendait beaucoup parler avant. Ça a toujours existé pourtant, et on en parle de plus en plus. Les paroles se libèrent. Moi, je suis... Il y en a toujours, malheureusement, mais je reste quand même assez positive, entre guillemets. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Et j'encourage vivement les personnes victimes à en parler, à avoir le courage d'en parler. Je sais que c'est très dur, mais il faut dénoncer ces actes. Vraiment.
Je pense que c'est surtout en montrant cet exemple-là que... qu'on va réussir à en parler. Je pense que ça reste quand même difficile à le mettre en pratique, parce que même si les paroles se libèrent, ça restera toujours des sujets à aborder qui seront difficiles, que ce soit avec sa famille, avec ses proches, et puis une fois qu'on en parle, qu'est-ce qu'on met en place derrière aussi. Parce que c'est bien d'en parler, mais on peut sentir que notre parole n'a pas été prise en compte si rien n'est fait derrière. Et ce que je trouve aussi qui a avancé, c'est, enfin, ce qui a vraiment avancé, je trouve, pour le coup, c'est que nos politiciens, ils mettent de plus en plus de choses en place et ils accordent de plus en plus d'importance à ces faits de harcèlement, parfois de violence qui peuvent arriver, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là aussi.
L'espoir est permis, alors ?
Oui, j'ai envie d'y croire, en tout cas.
Oui, moi je dis oui, bien sûr. Il faut,
je pense aussi.
Merci à tous les trois d'être venus dans cette méridienne. Alors, Pauline, on te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour conclure cette émission ?
J'aimerais juste leur dire que quand ça nous arrive, c'est peut-être compliqué, mais il faut réagir. Et que je pense qu'on peut tous trouver du soutien dans ce genre de situation. Et qu'en gardant le silence, ça n'aidera pas les choses à changer.
Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus dans cette émission. Alors, Pauline, tu nous as présenté ce qu'est le féminisme. Tu as réalisé cette interview de Maureen, étudiante qui travaille actuellement sur une application Not Alone portée par Pépite. Et nous avions également avec nous Bruno, étudiant infirmier. Merci à tous d'être venus dans notre studio et, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.
Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente l'effet Mathilda, ou les femmes oubliées de la science. Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel. Des femmes minimisées, voire ignorées dans leurs contributions scientifiques au profit de leurs collègues masculins. Avec Rosalind Franklin, biologiste, Trotula de Salerne, chirurgienne, Cecilia Payne-Gaboschkin, astronome, Liz Meitner, physicienne, Marianne Diamond, neuroscientifique.
Je m'appelle Cecilia Payne-Gaposchkin et depuis que je suis enfant, je sais que je devrais me battre pour étudier et pour vivre de ma passion. Je suis astronome et j'ai dû quitter mon pays pour poursuivre mes recherches. C'est moi qui ai découvert de quoi étaient constituées les étoiles. Vous savez, ces petits points lumineux qui apparaissent une fois la nuit tombée dans l'infini du ciel. Je suis née en Angleterre, le 10 mai 1900. Mon père nous a quittés lorsque je n'avais que 4 ans, en laissant ma mère seule avec 3 enfants. Petite, j'avais déjà cet esprit rationnel. J'ai même fait une expérience afin de déterminer si les prières étaient efficaces, à la suite de quoi je suis devenue agnostique, alors je vous laisse deviner les résultats. Quand j'avais environ 12 ans, on a déménagé à Londres et puis j'ai commencé à me passionner pour la botanique. Je suis rentrée à l'école Saint-Paul, une école réservée aux jeunes filles. Et puis j'ai eu une bourse d'études en 1919 pour entrer au Newham College qui accueillait les étudiants de l'université de Cambridge. Là-bas, j'assiste à une conférence qui va bouleverser ma vie, celle de Sir Arthur Stanley Eddington. Il décrit alors la théorie de la relativité d'Einstein et la lie à ses observations d'éclipses en Afrique. Je change radicalement de spécialisation et je m'adonne à la physique et à l'astronomie. Seulement à l'époque, à Cambridge, on n'accorde pas de diplôme et encore moins de postes en recherche aux femmes. Je finis malgré tout mes études en 1929 et je pars pour l'observatoire de l'université d'Harvard grâce à la bourse Pickering. J'étais la deuxième femme à l'obtenir. Une fois là-bas, mon directeur de recherche est Arlo Chaplet et je lui propose de travailler sur les spectres des étoiles. Quand je commence mes travaux, on sait déjà qu'il y a différents spectres d'étoiles et on en distingue 7 catégories que l'on nomme O, B, A, F, G, K, M. Ces catégories vont de plutôt bleu à plutôt rouge, mais les spectres présentent des manques à certains endroits, que l'on appelle des raies d'absorption. Ces raies d'absorption correspondent à des éléments que l'on retrouve dans le fameux tableau de Mendeleïev. Il faut savoir que la communauté scientifique pense alors que les étoiles sont proches de la Terre en termes de composition. Ce qui s'avère être vrai, mais nous sommes très loin des proportions qui avaient été imaginées. En avançant, je me rends compte que les 7 catégories de spectres correspondent en fait à des températures. Les étoiles plutôt bleues sont donc chaudes et les étoiles rouges froides. Dans ma thèse, je développe une approche peu orthodoxe, mais novatrice, d'étude de la température des atmosphères stellaires et de la caractérisation de leur composition, en me basant sur la spectroscopie et en particulier sur l'analyse des raies d'absorption. Il en résulte 2 découvertes. La première est qu'il est possible de calculer la température des étoiles à partir de leur spectre. C'est cette catégorie de spectre stellaire correspondant finalement à 7 niveaux de température d'étoiles. La deuxième, que les étoiles sont différentes des autres planètes comme la Terre ou le Soleil, dans le sens où celles-ci sont composées majoritairement d'hydrogène et d'hélium, et que le reste des éléments n'est qu'infime. En 1925, je suis la première personne à obtenir un doctorat en astronomie à l'Observatoire d'Harvard, après seulement 2 ans de recherche, et les critiques sont très bonnes. Plus tard, l'astronome Otto Struve dira que c'est la thèse la plus brillante jamais écrite en astronomie. Mais cela ne suffit pas. Mon directeur Arlo Chaplet s'est retrouvé très sceptique face à mon travail. Il a donc envoyé à mon ancien professeur Henry Russell, qui est à l'époque la star de l'astronomie. Il n'est pas d'accord avec mes découvertes et me dissuade de les publier. Après cela, j'ai un peu perdu confiance en moi. En plus de cela, je n'obtiens pas de poste officiel et je dois travailler en tant qu'assistante de mon directeur. 4 ans plus tard, Henry Russell écrit un article dans lequel il arrive au même résultat que moi. Il souligne tout de même que la découverte de mon fait est antérieure à lui, mais c'est son article que la communauté scientifique va retenir, et ses découvertes lui sont encore attribuées aujourd'hui. En 1926, je suis la plus jeune scientifique apparue dans le livre « American Men of Science », qui ne devient « American Men and Women of Science » seulement que 45 ans plus tard. Je dois attendre 1938 pour avoir enfin le titre d'astronome, et puis plus tard celui d'astronome Phillips. Aucun des cours que j'ai donnés à Harvard n'apparaissent dans le catalogue de l'université avant 1945. En 1956, je suis enfin nommée professeure car Arlo Chaplet est remplacé et je deviens la première femme à diriger le département d'astronomie de l'université. Je suis principalement reconnue aujourd'hui pour les recherches et les découvertes que j'ai faites avec mon mari Sergueï Gaposchkin, avec qui j'ai travaillé sur les étoiles variables, dont la luminosité fluctue. L'époque dans laquelle je suis née laissait peu de place aux femmes, dans les études supérieures et encore moins dans les sciences. Malgré mon genre sous-estimé, j'ai été membre de la Royal Astronomical Society à 22 ans. L'année d'après, de l'American Astronomical Society. J'ai traversé l'océan, j'ai travaillé comme assistante pendant 13 ans avec un salaire médiocre. J'ai cherché, j'ai appris et j'ai écrit. J'ai résisté. En 1934, l'American Astronomical Society me décerne le prix Annie Jump Cannon pour mes contributions au domaine de l'astronomie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai continué à exercer en tant que professeure et chercheuse, bien que cela ne soit pas dans les mœurs. J'ai reçu le prix Henry Norris Russell en 1976 par l'American Astronomical Society. Ironique. Je suis morte le 7 décembre 1979 d'un cancer des poumons. Je m'appelle Cécilia Pengapochkine. Retenez que j'ai découvert de quoi étaient composées les étoiles.
Radio Campus Besançon. L'effet Mathilda.